Et il est 18h18, on est parti.
Radio Star Berlin.
It's morning edition from NPR News.
That's it, he's on Peter House.
France Inter, le 18-20.
Qui sont ces mercenaires de chez Wagner? Ces mercenaires russes qui ont pris leur quartier en Centrafrique et aussi en Ukraine ou en Libye et qui, semble-t-il, cherchent à forcer la porte du Mali alors que la France s'y réorganise. On y vient avec notre invité dans un tout petit instant. Le bruit du monde ce soir est à Göteborg en Suède et c'est le bruit de la pluie que vous entendrez puisqu'il pleut un jour sur trois dans cette ville. Autant communiquer alors sur la beauté de l'eau qui tombe. C'est beau, une ville mouillée, vous allez voir ce que ça veut dire. Le bruit du monde, la suite sous les radars. Sébastien Eugénie a trouvé un pays, l'Espagne, qui pleure l'actrice de Kika et s'interroge aussi sur ce qu'elle n'a pas vu chez cette femme en souffrance. Sébastien vous emmènera aussi en Corée du Nord avec de nouvelles informations sur la folie du régime et puis en Australie aussi, écoutez, des chants d'oiseaux. 18h50, l'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes, avec Angélique Boin depuis le Conseil européen qui nous dira que l'Europe est en panique une fois de plus devant le variant Omicron et chaque pays qui décide une fois de plus de la jouer perso. 18h55, le monde d'après de Jean-Marc Four et la Libye qui va droit dans le mur. Comme prévu, le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Thierry Vircoulon.
Bonsoir Madame Sintès.
Vous êtes chercheur associé, Monsieur Vircoulon, au Centre Afrique subsaharienne de l'IFRI. La France a quitté notamment Tombouctou au Mali pour se réorganiser dans la zone. Emmanuel Macron y sera d'ailleurs à partir de lundi dans trois jours. Le Quai d'Orsay a déjà mis en garde le Mali. Il le fait depuis plusieurs semaines contre une utilisation éventuelle des mercenaires du groupe Wagner. Les États-Unis en ont remis une couche aujourd'hui. On a un peu l'impression, Thierry Vircoulon, que c'est l'éléphant dans la pièce entre le Mali et la France. On voit que ça, même si le mot n'a jamais été prononcé pour l'instant par le président Macron.
Oui, tout à fait. Ça remonte à cet été, en fait, où les contacts entre la junte malienne et le groupe Wagner ont été identifiés et où les services de renseignement occidentaux ont eu connaissance d'un accord qui pourrait être signé entre le groupe Wagner et la junte militaire pour que le groupe Wagner vienne et appuie militairement la junte.
Est-ce qu'on sait qui a passé le premier coup de fil du Mali qui dit « j'ai besoin de vous » ou de Wagner qui dit « voilà ce que je peux vous proposer » On sait ça ou pas?
Non, enfin non, je ne sais pas qui a été le premier, mais on voit bien que Wagner a frappé avant la porte du Mali, a frappé à la porte de beaucoup d'autres régimes et est en phase d'expansion, on pourrait dire.
Parce que on a l'impression que cette espèce de chantage qui a eu lieu à un moment, la phrase de la France au début, c'était « je vous préviens, si vous faites venir Wagner, nous on s'en va ». On ne le tient plus ce discours, c'est plutôt « on n'aimerait pas qu'il vienne, mais finalement de toute façon on ne partira pas ». Au fond, est-ce que là-dessus et sur cette peur de perdre l'influence, on n'a pas déjà perdu cette bataille contre ce groupe ? Et donc contre la Russie au final ?
Si. Oui, d'une certaine façon, parce qu'il y avait une contradiction dans la position française qui était de dire « nous quittons le Nord Mali » et donc de fait se créer un vide sécuritaire, parce que c'est pas l'armée malienne qui va le remplir. Et du coup, la junte va chercher d'autres partenaires, évidemment sécuritaires, pour remplir ce vide. Donc là, on est forcé un peu de rétro-pédaler, même si évidemment on a fermé les bases au Nord Mali. Et la visite du président Macron à Bamako, là, dans les jours qui viennent, a probablement pour but, en effet, de réussir à renouer, à faire un nouveau deal avec la junte qui permette d'empêcher Wagner de venir. Et la déclaration américaine dont vous parliez, très récente, est une montée de pression sur la junte qui s'inscrit, je pense, aussi dans le cadre de la visite du président Macron.
Est-ce qu'on sait s'ils sont déjà là cependant? Est-ce qu'on le saurait si c'était le cas ou pas, Thierry Vircoulon?
Oui, il y a déjà eu des éléments de Wagner qui ont été identifiés à Bamako et qui venaient probablement discuter avec la junte.
On dit que la première pierre d'ailleurs du groupe qui serait déjà là passe par une drôle de porte, ce serait un géologue qui travaille dans le secteur minier. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne les portes d'entrée? C'est-à-dire précisément entrer par la fenêtre là en attendant que les choses peut-être se tassent et en tout cas pour planter au moins un drapeau?
Je ne sais pas, mais si on regarde ce qui s'est passé dans d'autres pays, il y a toujours eu des contacts secrets au départ, et puis après un rapprochement officiel, où de toute façon les mercenaires de Wagner sont très visibles puisqu'ils sont en général armés en tenue militaire et souvent avec un brassard Wagner, enfin un écusson Wagner. Donc, ils sont difficilement dissimulables.
En Centrafrique, Monsieur Vircoulon, on dit que Moscou désormais remplace Paris en termes de protection du régime réellement. Mais le Sahel, c'est quand même autre chose. Est-ce que de toute façon, Wagner aurait les moyens de remplacer la France en hommes, en moyens ? Tout ça, ça semble extrêmement difficile. Donc, ce qu'ils offriraient ressemblerait plutôt à quoi ?
Ça pourrait ressembler probablement à la protection des gens de la junte, puisqu'ils ont fait, on a vu au Soudan, on a vu en Centrafrique, ils ont fait d'abord très souvent de la protection rapprochée des dirigeants, donc des gardes du corps, grosso modo. Et puis, ça pourrait être évidemment aussi de la formation militaire pour les forces maliennes, comme ils ont fait en Centrafrique aussi. Et puis, peut-être des déploiements dans certaines zones particulières du pays. Mais la déclaration des Américains hier parlait d'un contrat qui coûterait 10 millions de dollars par mois entre la junte et le groupe Wagner. Il est évident que 10 millions de dollars par mois, sur le plan militaire, il n'y aurait en effet pas de déploiement lourd, si je puis dire, ou de moyens très très significatifs.
Est-ce que le risque, parce que vous allez nous dire si ce n'est pas déjà le cas en Centrafrique, c'est une fois qu'on les laisse mettre un pied non seulement dans le pays, mais aussi dans la garde rapprochée là de la junte, c'est ensuite d'être prisonnier quasiment, donc toujours de toute façon redevable. On dit que c'est le cas désormais, par exemple, en Centrafrique, une fois qu'ils sont là, après c'est fini.
Après, c'est enfin fini, c'est peut-être un peu définitif, on va voir ce qui va se passer en Centrafrique, mais il est évident que les régimes qui signent avec eux sont des régimes qui ont un déficit sécuritaire, qui ne sont pas capables de faire face à leurs défis de sécurité, et surtout, la plupart du temps, ce sont des régimes, des gouvernants qui ont peur pour leur survie, pour leur propre survie, d'où l'entrée par le côté protection rapprochée et garde du corps, et en effet, ça permet d'avoir un accès direct au pouvoir, en tout cas aux gens qui prétendent l'exercer, et ça permet d'avoir une influence très forte sur eux, et en effet de remplacer, de représenter un parapluie sécuritaire, mais un parapluie sécuritaire pour le régime, pas un parapluie sécuritaire pour la population. Et ils ont montré qu'ils ne sont en aucune manière capables de régler les conflits dans lesquels ils s'impliquent.
Alors justement, effectivement, en Centrafrique, ils ont effectivement maintenu le pouvoir en place, mais tout ça au prix d'exactions, de viols, de pillages. On a parlé du Mozambique aussi, où cette armée-là était finalement très impréparée, très inadaptée à ce genre de terrain. On n'est pas en Ukraine, c'est un terrain complètement différent. Donc, encore une fois, en Centrafrique, par exemple, qu'est-ce qu'ils y ont gagné, finalement, à part le maintien du pouvoir, effectivement, et la garde rapprochée ?
En effet, pas grand-chose. Alors, le bilan, parce que Wagner, le groupe Wagner, se présente comme étant un fournisseur de sécurité. Et son argument de vente, c'est de dire qu'il est capable de protéger les régimes, etc. Mais il n'est pas. Il est clair que son bilan est largement surestimé. En Centrafrique, ils ont réussi à sauver le gouvernement en décembre 2020, lorsqu'il y a eu une nouvelle offensive des rebelles, et ils l'ont bloqué, et après ils ont fait une contre-offensive qui a repoussé les rebelles, mais maintenant ils sont enlisés dans une guérilla avec eux, et une guérilla qui, comme vous le disiez, est coûteuse en vie humaine, où ils ont tué beaucoup de gens, notamment dans les zones peules du Nord-Ouest. Mmh. Et puis, quand on regarde leurs activités dans les autres régimes aussi, ça n'a pas été un succès. En fait, il faut se rappeler que, bon, à part la Syrie, où Assad est toujours au pouvoir et où ils ont contribué, mais là, à côté de l'armée russe, à le maintenir au pouvoir, il y a eu la chute de Béchir, alors qu'ils étaient à ses côtés en 2019. Béchir a été chassé par la rue malgré leur présence. Il y a eu le Mozambique où en 2019, au bout de 3 mois, ils ont dû plier bagages, en effet, après avoir été pris dans une embuscade très sanglante par les djihadistes. Ils étaient aux côtés d'Haftar en Libye en 2020, où ils l'ont appuyé dans son offensive qui a finalement échoué. Et puis, ils ont été quand même décimés lors de la première confrontation entre des Russes et l'armée américaine dans l'est de la Syrie, où ils ont perdu en 2018, où ils ont perdu environ 300 mmh. hommes, et dans ce qui était la première confrontation directe de cette nouvelle guerre froide qu'il y a en ce moment. Donc leur bilan est largement surestimé.
Et en même temps, le rôle là derrière est aussi évidemment un rôle d'influence avec Moscou en sous-main. Donc même en cas d'échec militaire, effectivement, comme vous le dites, est-ce que leur capacité de nuisance est pas de toute façon suffisamment importante? Vous avez cité en effet le maréchal Haftar qui a en Libye raté sa tentative vers Tripoli, et en même temps capable d'empêcher un processus politique, capable de créer suffisamment de troubles pour que l'ordre de toute façon ne règne pas. Est-ce que ça suffit pas pour eux et pour la Russie au fond?
Oui, ça suffit en effet pour jouer un rôle déstabilisateur et pour être cet instrument de guerre froide et mener des guerres, pas des guerres secrètes, ça serait beaucoup dire, sauf évidemment dans le cas de la Libye, mais en tout cas mener un certain nombre d'opérations secrètes et de pousser des coins dans le... pas le camp occidental, mmh. mais dans des zones qui traditionnellement étaient sous l'influence sécuritaire occidentale.
Est-ce qu'on a le sentiment que Moscou exploite, par exemple, en ce moment, le sentiment anti-français qu'on entend au Mali et dans d'autres pays d'Afrique d'ailleurs? Est-ce que c'est par là que ça peut passer dans un pays comme le Mali? Et ce qui inquiète donc terriblement, j'imagine, la France et l'Europe d'ailleurs?
Oui, il y a une instrumentalisation très claire de la francophobie, un sentiment anti-français, par essentiellement des opérations sur les réseaux sociaux qui ont déjà été identifiées. Mais bon, là, il ne faut pas non plus se méprendre et croire que tout vient de ces trolls des réseaux sociaux. Il y a quand même, la francophobie a quand même des motifs locaux. Mm-hmm. Elle n'est pas une invention russe en mm-hmm. Afrique de l'Ouest. Et elle a, en fait, ils surfent sur un sentiment qui existe déjà là et sur lequel il faut s'interroger et traiter véritablement les causes.
Monsieur Virkoulon, si Wagner est donc, enfin, par cette intermédiaire, mais la Russie prenait une forme d'ascendant au Mali, quelles pourraient en être les conséquences? Qu'est-ce qui se passerait si Moscou avait plus d'ascendant?
Paris a monté une grosse opération diplomatique depuis quelques mois, c'est-à-dire qu'il a mobilisé tous ses alliés, aussi bien occidentaux que dans la région de l'Afrique de l'Ouest, pour mettre la pression sur la junte et leur dire très clairement quelles seraient ses conséquences. Conséquences, ça serait en effet la fin de l'aide sécuritaire. Ça serait surtout, et ça c'est l'argument le plus fort, la fin de l'aide financière pour le Mali. Avec, on a entendu ce qu'a dit l'Union européenne sur son aide financière. Ça serait le FMI également, etc. Donc Paris a fait monter au créneau tous les bailleurs occidentaux du Mali sur cette ligne. Et puis les pays africains, un certain nombre de présidents des pays africains environnants sont aussi venus dire à la junte malienne que ça serait une très très mauvaise idée pour leur relation que d'ouvrir la porte à Wagner au Mali.
Mais d'un autre
donc il y aurait à la fois une coupure de l'aide financière et en même temps une tension des relations régionales.
Et alors du coup, à l'inverse, qu'est-ce que Moscou aurait selon vous à y gagner dans la situation qui est celle du Sahel aujourd'hui?
Pas grand chose, sauf comme on le disait tout à l'heure, de dire qu'ils sont capables d'étendre leur influence et de remettre en cause l'influence sécuritaire française dans la zone, de perturber, si je puis dire, la guerre contre le djihadisme que mène Paris dans cette zone, et de dire, de continuer avec son argument de vente, qui est de dire, moi je suis capable de protéger les gouvernants en difficulté. Mais voilà, c'est vraiment là un jeu d'image, si je puis dire, plus que de réalité, et ça relève beaucoup de cette politique étrangère russe qui maintenant se veut très offensive et veut marquer des points un peu sur tous les sujets contre les Occidentaux.
Juste une dernière chose, on sait vaguement qui pilote Wagner, on parle de cet homme d'affaires qui s'appelle Evgeny Prigogine, on l'a même appelé le cuisinier de Poutine à une période. Est-ce qu'on sait qui le finance? Est-ce que ce sont, c'est pas ses fonds propres quand même j'imagine, est-ce qu'on sait comment ça fonctionne ça?
Je pense que les services de renseignement le savent, mais il y a évidemment un business model de Wagner qui, dès qu'il, on a vu en Syrie, qu'on a vu aussi au Soudan et en Centrafrique, où ils obtiennent, ou des sociétés fantômes obtiennent des contrats. Alors pour la Syrie, c'est sur le pétrole, mais sur le Soudan et sur la Centrafrique, c'est des contrats sur des concessions minières. Et donc c'est comme ça que serait repayé Wagner. Mmh. Sauf qu'en Centrafrique, ça s'est mal passé parce qu'ils avaient mal évalué ces concessions minières. Donc finalement, le groupe a essayé de se greffer sur les recettes douanières du pays cette année en essayant de mettre la main sur les recettes au principal poste de douane de la Centrafrique. Mmh. Et puis, il y a quand même une inquiétude très grave en Centrafrique. C'est pour ça que c'est lié à la question de l'aide financière des bailleurs occidentaux à ces régimes. C'est que on s'est inquiété du fait que le gouvernement qui n'a pas d'argent en Centrafrique utilise l'appui budgétaire européen ou de la Banque mondiale pour rémunérer Wagner. Et donc, ça serait finalement les contribuables européens qui paieraient les mercenaires de Wagner, ce qui serait en effet assez problématique.
On a bien compris qu'ils se payaient sur la bête, en quelque sorte. Thierry Vircoulon, chercheur associé au Centre Afrique subsaharienne de l'IFRI. Merci beaucoup.
Le 18-20, Fabienne Saint-Ès. Sur France Inter.
La suite ce soir, c'est le bruit du monde et c'est le bruit de la pluie que vous allez entendre. La pluie qui tombe un jour sur trois à Göteborg en Suède, si bien que la ville a décidé de communiquer là-dessus pour attirer les touristes. Et la troupe qui vous accompagne jusqu'à 19h sous les radars, Sébastien Logeni.
On peut être condamné à mort et exécuté pour avoir écouté de la musique pop en sud-coréenne et ça se passe en Corée du Nord, rapport révélé par le New York Times.
L'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes, c'est vous Angélique Boin, bonsoir.
Bonsoir, le variant Omicron pourrait être dominant en Europe d'ici la mi-janvier. Réunis en sommet ici à Bruxelles, les dirigeants essayent de coordonner leur riposte.
Le Monde d'après Jean-Marc Four. Bonsoir à vous Jean-Marc.
Bonsoir à tous. La Libye doit théoriquement élire son président dans une semaine, mais depuis hier soir, les miliciens sont dans la rue et le pays va droit dans le mur. C'était malheureusement prévu.
Allez, à tout de suite tout le monde. Le tour de la planète continue. Il croise la route d'IBI, Made of Gold, sur France Inter.
Feel it. We are the younger, the hunger. We show the heroes. Feel it. Alright, one more time. We show them heroes. Feel it. We are the younger and the hunger. We show them heroes. Feel it. We are the younger and the hunger.
Holy water. Crying at the altar. In and your
ce soir est en Suède. Et il pleut. Nous sommes à Göteborg, deuxième ville la plus arrosée du pays, où pourtant chaque carte postale essaye de jouer sur un plein ciel bleu. Eh bien, figurez-vous qu'un groupe d'habitants et la mairie ont décidé de vanter les mérites de la ville sous la pluie. C'est beau quand c'est mouillé, Göteborg, et le reste, c'est Frédéric Faux qui raconte.
Il pleut sur Göteborg, comme d'habitude, comme un jour sur trois. Mais ce n'est pas une raison pour rester chez soi. Dans le parc du séminaire, des installations permettent au public de profiter au mieux de cette eau qui tombe du ciel, comme cette bulle en plastique transparente dans laquelle nous entrons avec Magnus Mott.
Il pleut et c'est génial. Nous sommes dans ce que nous appelons un pavillon de pluie. À l'intérieur, vous pouvez voir les gouttes tomber du ciel, glisser sur le côté en écoutant ce beau son de la pluie.
À quelques mètres de là, de mystérieux globes suspendus recueillent l'eau de pluie.
La nuit, quand c'est allumé, on voit les reflets de l'eau qui bougent. C'est comme dans un rêve.
Donc non seulement vous permettez aux gens de rester dans ce parc quand il pleut, mais en fait vous les encouragez. Il y a des choses ici qu'on ne peut voir que quand il pleut.
Exactement, et ce n'est qu'un début. Si nous faisons les choses comme ça partout, un jour nous serons la meilleure ville où vivre quand il pleut.
Magnus Mott est l'un des deux hommes derrière le projet Rain Göteborg, dont le but est simple, faire de ce qui peut apparaître comme un handicap une chance. Travailler avec tous les services de la mairie de la ville pour qu'ils intègrent l'eau et ses bienfaits dans leur projet. L'autre est un artiste, Jens Toms Inderson. Pour lui, l'eau est un matériel unique, inépuisable, dont la beauté peut même survenir par accident.
J'ai fait ce film avec mon téléphone quand j'étais dans le tram à Göteborg. La bande de caoutchouc qui réunissait le double vitrage s'était rompue et l'eau de pluie s'est retrouvée coincée entre les deux vitres. Ah, voilà le film. Vous voyez la ligne de l'eau là, et quand le tram freine, ça commence à bouger. Et les gens commençaient à regarder ça comme une œuvre d'art, vous voyez. Alors j'ai parlé à la compagnie de transport et je leur ai dit, vous devriez préparer avec des artistes certaines fenêtres dans les bus et les trams pour qu'à chaque fois qu'il pleut, les passagers puissent avoir une petite expérience artistique.
Des projets comme celui-ci, Rain Göteborg en déborde. Le groupe a même demandé à une compagnie locale de créer une nouvelle danse de la pluie. Car l'objectif aujourd'hui est bien de changer les esprits.
Dans toutes les villes, on est confronté à cette gestion des eaux de pluie, mais ici, nous incitons la ville de Göteborg à élargir les équipes pour qu'elles intègrent des designers, des artistes. Par exemple, nous avons l'école de Torslanda. La construction a commencé il y a un an, elle sera la meilleure école quand il pleut. L'eau sera collectée sur les toits pour créer des cascades.
Cette école n'est pas encore ouverte, mais certaines de ses idées ont déjà vu le jour. Dans la voiture de Magnus, nous traversons la ville pour nous rendre dans une aire de jeu pour enfants spécialement conçue afin de profiter de cette pluie à laquelle Göteborg ne peut guère échapper.
C'est juste un fait. L'humidité monte des nuages depuis la mer, qui est réchauffée par le Gulf Stream. Et quand elle rencontre les côtes de la Suède et de la Norvège, elle retombe. Donc on a encore beaucoup de travail à faire pour transformer cette pluie en quelque chose qui a de la valeur.
Cette philosophie, c'est tout à fait celle qui a prévalu à la construction de cette nouvelle aire de jeu.
C'est comme une aire de jeu traditionnelle avec ses balançoires. Mais vous avez ces toits en forme de feuilles.
Ce sont des sortes de nénuphars géants, des nénuphars géants métalliques. Il y a des bancs pour s'asseoir, donc c'est utile et c'est très beau aussi.
Oui, c'est très beau. Et l'eau d'une feuille s'écoule dans une autre, puis une autre. Jusqu'à l'endroit où les enfants peuvent jouer avec.
Et les enfants apprécient, comme le confirme Sarah, venue avec son mari et sa fille de 3 ans.
Elle adore ça et elle aime ça aussi.
En fait, il y a un autre endroit qu'on ne va pas montrer. Le sol est spécialement creusé pour faire des flaques. Est-ce que ça a été dur de s'adapter au climat de Göteborg ?
Moi, j'aime la pluie. C'est plus dur pour mon mari.
Pour moi, c'est pénible de devoir mettre tous ces vêtements supplémentaires. Je préfère sortir quand il fait beau.
Il faudra pourtant qu'il s'habitue. Avec le changement climatique, Göteborg devrait subir des pluies plus violentes et plus fréquentes.
Frédéric Faux qui fait des claquettes à Göteborg. Allez vous mettre au sec, Frédéric. Le bruit du monde sous les radars, c'est Sébastien Logénie et c'est tout de suite. Est-ce qu'on entend là, Sébastien? C'est un extrait de Kika, le film de Pedro Almodovar, et celle qui incarnait le personnage à l'écran a été retrouvée morte cette semaine à Madrid.
Il s'agit de Veronica Forqué, actrice très connue, très aimée en Espagne. Elle a mis fin à ses jours à l'âge de 66 ans. Son corps a été découvert à son domicile lundi et son suicide bouleverse le pays depuis le début de la semaine. Veronica Forqué, c'était l'une des comédiennes les plus populaires en Espagne dans les années 80-90. Quatre équivalents des Césars pendant sa carrière, beaucoup d'hommages après sa mort. Et maintenant, l'opinion qui s'interroge sur les raisons de son acte. Il se trouve qu'elle avait récemment participé à une émission de télé-réalité culinaire, l'adaptation française, l'adaptation espagnole plutôt de Masterchef, l'une des plus grosses audiences de la télé publique. Or, à l'écran, son mal-être était patent, saute d'humeur, accès de colère, une émotivité excessive qui faisait le buzz, et notamment le jour où Veronica Forqué a décidé de quitter l'émission. On l'entend dire « no puedo más », je n'en peux plus, je ne me sens pas bien, j'ai besoin de me reposer, je n'en peux plus. Une séquence moquée, détournée, qui va faire les délices des réseaux sociaux cet automne, sauf que quelques semaines plus tard, l'actrice se suicidait. Elle était en fait en pleine dépression depuis des mois. Alors à qui la faute, se demandent aujourd'hui les Espagnols? Le manque de bienveillance et de soutien psychologique de la télévision, la course à l'audimat, le voyeurisme, la méchanceté anonyme des internautes et bien sûr, et surtout, la santé mentale très précaire de l'actrice. Bref, l'Espagne fait son examen de conscience. L'an dernier, les suicides ont augmenté de 7% dans le pays.
C'est un rapport sur la Corée du Nord qui fait froid dans le dos.
Le rapport d'une ONG sud-coréenne de défense des droits de l'homme, publié dans le New York Times aujourd'hui, sur les condamnations à mort prononcées par le régime de Pyongyang depuis 10 ans, où l'on découvre que parmi les exécutés, certains l'ont été pour avoir simplement écouté ou distribué sous le manteau des morceaux de K-pop, la pop coréenne très populaire à Séoul, considérée par le leader nord-coréen Kim Jong-un lui-même comme, je cite, un cancer vicieux, une invasion antisocialiste. Depuis l'an dernier, le régime a édicté une nouvelle loi qui punit de mort toute personne arrêtée en train de diffuser des divertissements sud-coréens dans le pays, chansons, films ou séries. L'exécution a lieu en public, 9 balles dans le corps, tirées par des soldats sous les yeux de la famille de la victime. Précisément, selon l'ONG, l'origine de ces révélations, ce sont au moins 7 personnes qui auraient été fusillées dans ces conditions entre 2012 et 2014 en place publique. L'ONG a travaillé grâce aux témoignages, aux documents que l'on entend là de près de 700 Nord-Coréens qui ont fui la dictature depuis 2015. Et ce que l'on entend effectivement, c'est une vidéo tournée sur le portable d'un Nord-Coréen diffusée l'an dernier sur une télé sud-coréenne. C'est un procès public, le procès d'un jeune étudiant devant des centaines de ses camarades condamné pour avoir été en possession d'une clé USB comportant 75 chansons sud-coréennes. On ne sait pas s'il a été exécuté. Ces derniers temps, ce genre de documents, de témoignages devient de plus en plus rare. Le nombre de gens parvenant à fuir Pyongyang a beaucoup chuté. Les frontières nord-coréennes, avec la crise sanitaire notamment, se sont encore plus refermées.
Allez, tout autre chose, Sébastien. Voici un album de chants d'oiseaux qui fait un carton en Australie.
Ça s'appelle Songs of Disappearance, autrement dit chants de la disparition. On écoute. Voilà, c'est un album entièrement composé de gazouillis, de cris d'oiseaux australiens en voie de disparition. C'est incroyable, les 53 espèces les plus menacées d'Australie, enregistrées par un spécialiste des sons animaliers qui écume le pays depuis 30 ans. C'est sorti il y a moins de 2 semaines, cet album, et le concept fait un tabac. Il est entré dans le top 5 donc des ventes en Australie, devant ABBA et Mariah Carey. Premier album du genre à figurer dans ce top 5. Le produit des ventes ira au projet de conservation de BirdLife, qui défend la faune australienne face au changement climatique. Un oiseau australien sur 6 est désormais menacé de disparition.
Merci beaucoup, Sébastien Logénie. À très vite. On me dit que vous partez en vacances.
Exactement.
C'est scandaleux. Je vous laisse quitter le studio en compagnie de Son Little Lay Down. Tiens, allongez-vous si vous le voulez. Baby, won't you lay down? Let's watch this water boil. Let the others run around. For once, baby, won't you lay down? And watch this water boil. Let the others run around. Thank you.
just this once. Lay down with me a moment. Let me ease your worried mind. Lay down and drift a moment. Watch this water boil. Let the others run around. For once, said baby, won't you lay down and watch this water boil. Let the others run around. Just this once. Let your hair down and pull the curtain. Let me see you in the light. Just lay down, your words are worthless. Let me hold you through the night. Say, baby, won't you lay down? Let's watch this water boil. Let the others run around. For once, baby, won't you lay down and watch this water boil. Just this once, said, baby, won't you
Some Little Lay Down sur France Inter. Eh bien, c'est pas le moment de se reposer. Nous partons pour Bruxelles.
France Inter.
Je suis venu vous parler d'Europe.
European Union, général.
Un jour dans le monde.
L'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes. Et Angélique Boin, en direct du bâtiment du Conseil européen. Angélique, où se tient en ce moment même un sommet des 27 chefs d'État et de gouvernement. Des dirigeants, Angélique, une fois de plus, rattrapés par la pandémie de Covid.
Eh oui, Fabienne, il y a de gros dossiers à faire avancer. La réponse à la menace russe, la crise énergétique, les migrations. Mais Omicron est de nouveau le gros caillou dans les chaussures des 27 qui en ont fait le premier sujet ce matin de leur rencontre. Il y a urgence à se coordonner, notamment pour ne pas écorner une nouvelle fois la libre circulation des Européens. Car l'Italie, la Grèce, l'Irlande, le Portugal imposent ou veulent imposer à leurs frontières un test PCR ou antigénique, en plus du pass sanitaire hein, qui atteste d'une vaccination. Le temps d'en savoir plus sur la dangerosité de ce variant, ont expliqué certains de ses dirigeants, vivement critiqués par d'autres, hein, dont le Luxembourg ou la Belgique, car pour eux, ça envoie un signal négatif sur l'utilité de se vacciner et ça met en danger ce fameux certificat européen, a même estimé le Belge Alexander De Croo. Un pass européen sur lequel il va aussi falloir s'accorder à 27 sur la durée de validité et l'espace maximal autorisé entre la deuxième et la troisième dose pour pouvoir circuler en Europe. La Commission a donc été mandaté par les 27 pour leur faire très rapidement, Fabienne, une proposition.
Donc on a bien compris qu'on allait essayer de remettre un petit peu d'ordre là-dedans, mais aussi relancer les campagnes de vaccination, non ?
Oui, il est crucial de se vacciner, y compris avec la troisième dose, ont convenu tout à l'heure les 27, qui veulent également mieux lutter contre la désinformation qui gangrène hein, certains États membres, comme la Bulgarie, la Roumanie, la Slovaquie, où moins d'un habitant sur deux est vacciné. Mais le vaccin seul, s'il est essentiel, ne suffira pas, a averti l'Agence européenne des maladies, le CDC, qui appelle à un renforcement du télétravail, à une prudence accrue lors des fêtes de fin d'année. Dans leur conclusion, les 27 rappellent que les éventuelles restrictions prises nationalement ne doivent pas entraver de manière disproportionnée la libre circulation, doivent être fondées sur des critères objectifs, présentes, comme à chaque conseil. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, les avait mis en garde un peu plus tôt sur le fait qu'Omicron pourrait devenir dominant en Europe, Fabienne, d'ici trois semaines.
Donc merci de nous remonter le moral, Angélique, mais dans cette nouvelle phase de crise, il y a une petite lumière.
Oui, alors on verra avec le temps hein, si Omicron fait dérailler ou pas la coordination aux frontières. Mais en effet, une chose est sûre, mesure, la détection de ce variant en Afrique du Sud a fait l'effet d'une détonation et réveillé quelques consciences. Les 27 se sont engagés tout à l'heure à accélérer fortement l'aide à la vaccination des pays pauvres. Un chiffre qu'on rappelle, moins de 7 Africains sur 10 sont vaccinés. C'est 10 fois moins qu'en Europe. Les 27 se disent déterminés, il écrit, à renforcer leur soutien, en particulier à l'Afrique. Et puis c'est important, à remédier aux obstacles qui entravent en fait le déploiement de ces vaccins.
Et pardon Angélique, mais enfin il est temps de se réveiller quand même, non ?
Oui, parce que moins de la moitié des doses promises ont jusqu'alors été livrées en fait. Mais il faut le dire, deux des trois principaux obstacles à cette distribution ont été levés. D'abord la commission, qui est un paquebot difficile à bouger, est enfin en ordre de marche administrative, on va dire, hein, pour faire court, pour mieux piloter cette aide. Et puis les Européens qui se sont servis en premier ont maintenant assez de doses à donner. 66 usines fonctionnent 24 heures sur 24 dans l'Union. Reste donc un seul obstacle qu'on ne pourra surmonter qu'en augmentant significativement notre soutien à ces pays, comme les Européens viennent de s'y engager, car certaines doses, eh bien, n'ont pas été livrées parce qu'ils n'avaient pas la logistique, chaîne du froid notamment, pour les réceptionner. Deux ans après le début de cette pandémie, on ne peut que s'en désoler. On verra donc sur pièce si l'éruption d'Omicron va permettre ou non de tout changer.
Merci beaucoup, on sera très vite fixé. Merci Angélique et à très vite. Jean-Marc Four nous attend.
Fabienne Synthès. Le 18-20.
Le monde d'après. Jean-Marc, la tension est forte depuis hier soir à Tripoli, en Libye. Des miliciens armés patrouillent dans les rues. Le tout à 8 jours d'une élection présidentielle, toujours prévue le 24 décembre, mais qui semble très très mal engagée. La Libye va droit dans le mur. Et le pire pour vous, c'est que tout ça était parfaitement prévisible. C'est votre monde d'après.
Allez, je prends le pari. Cette élection du 24 décembre en Libye n'aura pas lieu. Il n'y aura pas de cadeau de Noël démocratique. Et tiens, si je perds mon pari, promis Fabienne, je vous offre, mettons, un gnou en peluche.
Ah, vous écoutez ce que vous voulez.
Bon, trêve de plaisanterie, cela dit, ce serait la première élection présidentielle libre et ouverte de l'histoire de la Libye depuis son indépendance il y a 70 ans, donc un événement. Mais dans le meilleur des cas, le scrutin sera totalement faussé. Dans le pire et le plus probable, je vous disais, il n'aura pas lieu. Parce que tout est réuni pour qu'il n'ait pas lieu. Et de un, l'organisation du scrutin n'est pas assurée. 8 jours avant, la liste officielle des candidats n'est toujours pas publiée. La sécurité des bureaux de vote n'est pas assurée. L'impression des bulletins, pas davantage. Et de deux, il n'y a pas de loi électorale qui fasse consensus, et pas non plus de constitution. C'est-à-dire que, quand bien même un président serait élu, la nature de ses pouvoirs est indéfinie. Et de trois, c'est la cacophonie dans les candidatures. 98 candidats, 73 prévalidés par la commission électorale, mais cette commission n'est même pas reconnue par tous. Les trois favoris sont tous considérés illégitimes par leurs adversaires. Le fils de l'ancien potentat, Saïf al-Islam Kadhafi, poursuivi par la Cour pénale internationale, le maréchal Haftar, accusé de crimes de guerre, et le Premier ministre Abdelhamid Beïba. Il aurait dû démissionner il y a 3 mois pour pouvoir légalement concourir. Enfin, et de 4, pour compléter le tableau, l'insécurité règne, vous le disiez, comme en témoignent ces événements d'hier soir, des miliciens armés qui déboulent dans les rues de Tripoli après l'éviction du commandant militaire de la capitale. Bref, c'est le chaos.
Et pourquoi on en est là, alors ?
Alors, on en est là pour des raisons à la fois intérieures et extérieures à la Libye. Alors, les intérieures d'abord. Le pays est profondément divisé entre des régions et des factions qui ont chacune un peu créé leurs institutions. La Tripolitaine à l'ouest, la Cyrénaïque à l'est et le Fezzan au sud. Sans compter une myriade de groupes armés et de milices mafieuses, notamment dans la ville de Misrata. Il n'y a pas d'autorité centrale, pas d'État, juste une juxtaposition de pouvoirs locaux et de chefs de tribu. Alors, le colonel Kadhafi était un dictateur, c'est vrai, mais il maintenait une forme de cohésion nationale grâce à son charisme personnel et à une certaine adresse pour ménager les tribus et distribuer les subsides du pétrole. Des raisons extérieures ensuite. La Libye est devenue l'un de ses terrains de guerre par procuration, on le sait, entre des puissances qui ne veulent pas s'affronter directement. D'un côté, la Turquie et le Qatar soutiennent le gouvernement de Tripoli à l'ouest. De l'autre, l'Égypte et les Émirats appuient le maréchal Haftar à l'est. Et puis vous ajoutez l'ambiguïté des Occidentaux. La France a longtemps soutenu Haftar. La présence de milliers de mercenaires, au moins 20 000 selon les estimations, essentiellement des Russes et des Soudanais. Vous évoquiez la société Wagner tout à l'heure. Et puis les intérêts des trafiquants qui profitent du chaos. Trafic en particulier d'êtres humains, de migrants venus d'Afrique subsaharienne. Donc vous combinez tout ça et oui, la Libye va droit dans le mur.
Mais donc c'était prévisible. Alors pourquoi est-ce qu'on a maintenu l'échéance du 24 décembre ?
C'était plus que prévisible. Hein, même. C'était prévu. Enfin, c'était prévu par la quasi-totalité des connaisseurs du dossier libyen. Et pourtant, oui, la communauté internationale a maintenu cet objectif du 24 décembre, réitéré, martelé, lors de la conférence organisée par la France le 12 novembre dernier. Comme un vœu pieux, la méthode Coué, l'espoir d'une prophétie auto-créatrice, parce qu'on l'annonce, ça va se produire. En fait, les Occidentaux aimeraient surtout se débarrasser de cette patate chaude libyenne, qu'on n'en parle plus, qu'il y ait enfin un interlocuteur, un président élu, qu'on puisse charger de dénouer le sac de nœuds. Et puis les Occidentaux aimeraient d'autant plus s'en débarrasser qu'ils ont une responsabilité dans ce chaos, en ayant déclenché, la France de Nicolas Sarkozy en tête, l'intervention internationale qui avait renversé Kadhafi il y a 10 ans. Mais une élection libre, ça ne se décrète pas, sans loi électorale, sans constitution, sans garantie de sécurité. Et le plus triste dans l'histoire, c'est que de très nombreux Libyens, à la base, plaçaient leurs espoirs dans ce scrutin sur les 2 700 000 électeurs potentiels. Plus de 90% d'entre eux ont retiré leur carte électorale. Donc ce nouvel échec annoncé va alimenter la frustration et l'amertume. Un espoir déçu de plus.
Le Monde d'après, signé Jean-Marc Four, comme tous les soirs dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup. Dans un instant, le 18-20, la suite, c'est le téléphone sonne. Juste avant, il y a le journal d'Hélène Philly. Merci de partager votre soirée avec la nôtre. Ne changez rien.